France Culture.
Ce qui est particulier dans La prière aux étoiles, c'est que c'est l'auteur du film qui a lui-même détruit son film alors que tout se passait à peu près bien. Enfin, à peu près bien. Il avait tourné le film, il le montait et on était dans un processus industriel qu'il connaissait parfaitement. Et évidemment, vous imaginez pour quelqu'un qui a passé des années à écrire, à tourner, à produire, qui a lourdement investi dans un film comme La prière aux étoiles, le fait de détruire son film, mais c'est un truc à peine sensé.
Alors effectivement, c'est une belle histoire dont je ne suis pas du tout surprise que Pagnol ait raconté ça avec toute sa faconde, parce que c'est vrai que c'est très beau, cette image du réalisateur qui détruit son œuvre à la hache, dans la cour de ses studios, avant de se retirer. Mais qu'est-ce qu'il a détruit? Est-ce qu'il a détruit le négatif? Est-ce qu'il a détruit une bobine d'un négatif raté? Est-ce qu'il a détruit une copie positive? L'histoire est belle, elle est assez peu probable. C'est un geste qui me semble à la fois très romanesque et en même temps peu compatible avec son souci de gestionnaire, d'entrepreneur. C'est quelqu'un qui sait faire fonctionner ses affaires et c'était quand même pas extrêmement compliqué de cacher des éléments dans une de ses nombreuses propriétés. Donc voilà, c'est une histoire qui me laisse perplexe, du moins.
La prière aux étoiles, le film perdu de Marcel Pagnol. Un documentaire de Pierre Chassagneux et Yvon Croisier. Épisode 2, le film retrouvé. Valécien Bonogalluzzi, vous êtes doctorant en histoire de l'art cinéma. Quand est-ce que vous entendez parler pour la première fois de cette œuvre, La prière aux étoiles?
Alors c'est à la Cinémathèque de Corse que j'ai appris l'existence de La prière aux étoiles. De nombreux Corses ont travaillé pour Marcel Pagnol, des archives se sont retrouvées en Corse et également des témoignages. Et c'est par ce biais-là que j'ai appris l'existence de La prière aux étoiles. Et j'ai décidé d'une certaine manière de partir à sa recherche. La prière aux étoiles est une histoire d'amour entre Pierre et Florence. Florence, une actrice de cinéma, et Pierre, un musicien. Ces deux protagonistes se rencontrent lors d'une foire, décident de consulter une sorcière qui, d'une certaine manière, leur promet un amour éternel. Et Florence et Pierre suivent éperdument cette prophétie mystique et se heurtent aux désillusions que peuvent provoquer ces amours spontanés. Je parle d'histoire d'amour parce que c'est un film qui est à la fois différent des autres scénarios de Pagnol, mais qui d'une certaine manière est le plus représentatif de l'esprit de son cinéaste. L'esprit du scénario est intimement lié à l'histoire personnelle de Marcel Pagnol.
Qu'est-ce qui vous pousse à retrouver ces bobines?
C'est surtout l'histoire autour du film. Un film détruit durant l'occupation par son auteur pour contester la mainmise allemande sur le cinéma français. Qui plus est, un auteur qui détruit sa propre œuvre, le créateur qui occulte sa propre créature. Il y a quelque chose de l'ordre du polar dans ce récit. Et bien évidemment, j'ai été excité par cette légende. Et puis, pour le dire simplement, c'est mon métier de chercheur. Dès lors qu'il y a quelque chose de mystérieux, le rôle de tout chercheur est de partir à sa recherche.
Alors, quand est-ce que vous vous êtes mis en tête, Nicolas Pagnol, de retrouver les bobines?
Il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic lorsque j'ai écouté une interview de mon grand-père, qui devait dater des années 60, et dans laquelle il déclarait qu'il lui restait une copie de La prière aux étoiles, et tout du moins du premier film qu'il avait terminé. C'était il y a peut-être une vingtaine d'années, et l'enquête a commencé. Premièrement, j'ai fait un état des lieux de notre stock au CNC. Nous avions une bobine, le négatif son, pas grand-chose. Et ensuite, je reçois un coup de fil de Serge Brombert, de Lobster Film, qui me dit « Nicolas, viens prendre un café au, au bureau, j'ai une surprise pour toi. Alors j'arrive un matin, assez tôt d'ailleurs, et viens au sous-sol. J'arrive au sous-sol et sur une grande desserte à roulettes, je vois un monticule de pellicules. Et sur toutes les boîtes, les étiquettes originales de La Prière aux Étoiles, les films Marcel Pagnol. Ah, je m'assois. J'ai plus de jambes, j'ai les jambes coupées, je m'assois. Et Serge me dit, je ne les ai pas ouvertes, je t'attendais. Et donc on a ouvert toutes les boîtes, et c'était des chutes reconditionnées dans des boîtes de La Prière aux Étoiles, mais ça n'avait absolument rien à voir avec La Prière aux Étoiles. Et à partir de ce moment-là, j'étais un petit peu découragé. Voilà, j'avais plus de pistes. Je me disais, peut-être que ces bobines sont chez un collectionneur, peut-être... qu'elles sont tout simplement détruites, perdues. Parce que dans les années 60, Marcel conservait tout son stock cinématographique dans une champignonnière vers Conflans-Sainte-Honorine, en bord de Seine. Et la champignonnière, un jour, a été complètement inondée. Et Marcel a fait du tri dans le stock de ce qui avait été vraiment irrécupérablement abîmé et ce qu'il pouvait garder. Et je me suis dit, bon, peut-être que cette copie a été jetée parce que vraiment abîmée. Bah, la preuve que non, parce que grâce à Valécien et au travail du CNC, alors je ne sais pas dans quelles conditions cette copie a refait surface, hein, mais en tout cas, elle a refait surface cette année et c'est une excellente nouvelle.
Valécien Bonogalucci, comment vous vous retrouvez un jour face à ces bobines ?
C'est en consultant les archives au CNC. J'ai d'abord été dubitatif. Je suis resté sans mot dire. Rapidement, j'en ai informé Nicolas Pagnol. Alors, il était ravi et enthousiaste à l'idée de savoir que des éléments étaient disponibles et conservés sur ce film. Puisque c'est pas seulement des rushs, ce sont des parties intégrales qui nous montrent une continuité narrative, une trace matérielle de l'art de Pagnol.
Nous sommes dans les Yvelines, à Bois d'Arcy, dans un ancien fort qui, à partir des années 60, a été transformé pour pouvoir accueillir, conserver et restaurer le patrimoine cinématographique français. On est l'équipe de France Culture, on a rendez-vous avec Béatrice de Pastre.
Dans une pièce de conservation des films sur support de sécurité, c'est-à-dire des films sur de la pellicule en acétate, diacétate ou triacétate et, ou polyester, c'est-à-dire des supports qui ne sont pas inflammables. Les films sont rangés sur des compactus, c'est-à-dire des armoires mobiles. Nous faisons du stockage à plat pour que l'ensemble du poids de la bobine repose sur l'ensemble des spires. Et puis, ben, nous climatisons également ces bâtiments autour de 12 degrés et avec un taux d'hygrométrie compris entre 35 et 50% en fonction du support.
Je vois, il y a effectivement des centaines de bobines. Je vois les Enfants du Paradis, je vois le Grand Bleu. Donc on passe de deux périodes cinématographiques et de deux metteurs en scène totalement différents.
Oui, alors il y a eu une période où effectivement le titre du film était inscrit sur la tranche des bobines. Bon, ce qui n'est plus le cas si vous regardez sur de ce côté-là. Et en fonction en fait de la nature du support, est-ce que c'est une copie, est-ce que c'est un négatif, est-ce que c'est un son, est-ce que c'est du nitrate ou du safety, on va diriger les boîtes vers telle ou telle salle. Et comme tout est géré par code barre, nous savons, grâce à notre base de données, exactement où sont chacune des boîtes. Et ça permet de les suivre aussi quand on travaille sur une boîte. On va tracer la boîte d'une pièce à l'autre et on pourra la ramener sur son étagère d'origine quand tous ces travaux seront terminés.
Voilà, donc
une bobine, c'est...
Serge Bromberg.
Il n'y a pas de choses autour, il faut faire attention parce que si vous la portez horizontalement, elle risque de se dérouler à vos pieds.
C'est quoi cet objet ?
Cet objet, c'est une enrouleuse. C'est-à-dire que vous allez mettre la bobine sur le plateau de gauche et puis sur le plateau de droite, vous allez mettre un noyau. Et donc vous avez deux plateaux et ensuite eh ben, le film va passer du plateau gauche au plateau de droite. Ça va vous permettre d'enrouler ou de dérouler le film. Là, vous voyez les images qui déroulent entre mes doigts. Voilà, là vous voyez une petite croix, vous voyez une colure.
Des indications pour le monteur ou la monteuse ?
Absolument. C'est-à-dire que ces croix et ces colures et ces indications manuscrites veulent dire qu'il s'agit d'une copie de travail, c'est-à-dire qu'elle va être montée, remontée à l'endroit, à l'envers, on va rajouter des scènes, on va les supprimer. Cette copie a pour vocation à être montrée pour que le montage soit validé définitivement. Et une fois qu'on est d'accord sur le montage, on va conformer le négatif original, celui qui est passé dans la caméra. On va le couper de la même manière que cette copie de travail. Et à partir de ce négatif conformé, on va tirer autant de copies commerciales qu'on aura envie. Mais là, c'est une copie de travail. C'est du noir et blanc, comme vous le voyez. Il y a un collage entre chaque plan. Là, il y a du blanc. Alors, on ne sait pas ce que c'est ce blanc. Il y a même un petit morceau d'adhésif.
Vous dirigez au pied, je vois.
Oui, c'est-à-dire que j'ai besoin de mes deux mains pour pouvoir toucher, orienter la pellicule, enfin bref, faire mon travail avec mes mains. Donc, mon pied sert simplement à faire partir l'enrouleuse comme un accélérateur. Mais j'y vais évidemment très très lentement. Ces copies sont des copies très anciennes et il faut faire très très attention. Ce sont des vieilles dames. Voilà, là vous avez un petit morceau, vous avez une inscription manuscrite, vous voyez, prière. Voilà.
C'est quoi comme métal ? C'est de la ferraille, c'est de l'aluminium ?
C'est du fer blanc. Mais ça n'a jamais été fabriqué avec une idée de durabilité. Dès qu'il s'agit de conserver des films de manière longue, en règle générale, on utilise des boîtes en plastique parce que ces boîtes en plastique ne rouillent pas et a priori, c'est des boîtes dans lesquelles d'ailleurs on garde des petites ouvertures afin qu'il n'y ait pas de rétention de gaz à l'intérieur de la boîte. Supposons que le film dégage, comme par exemple les films en triacétate, une sorte de ce qu'on appelle de vinaigre, en fait c'est un gaz acétique. Si ce gaz reste prisonnier dans la boîte, il va attaquer le film dont il est issu. Et à l'arrivée, au terme d'une réaction en chaîne, le film va s'auto-détruire.
Béatrice De Pastre, vous nous accueillez ici au CNC, vous êtes directrice des collections. Que recouvrent vos responsabilités à Bois d'Arcy ?
Alors, la direction du patrimoine du CNC a en charge les collections films qui lui ont été confiées par des déposants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous conservons à peu près 1 100 000 boîtes de films. Si c'est nécessaire, il faut les restaurer ou les numériser. Et puis, il faut les valoriser.
Quand entendez-vous parler pour la première fois de La Prière aux étoiles, donc ce film de Marcel Pagnol ?
Alors, personnellement, c'est effectivement par Valécian que j'ai appris même l'existence de ce film. Et mes collègues ici, notamment Éric Leroy, avaient été en contact avec la famille Pagnol il y a maintenant de longues années, puisque les premières boîtes du film nous ont été déposées par la Compagnie méditerranéenne de films, c'est-à-dire la société de Marcel Pagnol, en 1979. Donc, c'est pas une aventure récente. Donc il y a eu plusieurs dépôts en 79, en 95 et en 87 et en 97. Donc voilà, c'est une arrivée progressive d'un ensemble de boîtes concernant le film ici.
Alors, comment réagissez-vous quand Valécian Bono Gallucci vous prévient qu'il a pu visionner 8 bobines de La Prière aux étoiles, un film qui a été détruit par son auteur ?
On trouve ce qu'on cherche. Donc, si personne avant ne s'était intéressé à ce film d'une façon appuyée et n'a jamais demandé à visionner les bobines, c'est des choses qui arrivent souvent. On retrouve comme ça beaucoup de choses parce que tout d'un coup, on fait une recherche plus poussée. Mais le film était enregistré dans notre base de données. On fait une recherche dans la base de données. Et on sait exactement combien il y a de boîtes.
C'était dans le premier trimestre, je crois, de l'année dernière.
Nicolas Pagnol.
Je suis dans un taxi, place de l'Étoile, et Valécien m'appelle et me dit « Nicolas, j'ai retrouvé 8 bobines de La Prière aux étoiles ». Au CNC ? Oui, au CNC. Et donc, tout de suite, j'ai fait sortir les bobines. D'abord, on a fait un transfert de propriété du CNC à la Compagnie Méditerranéenne de Films, hein, qui est donc la société de production de mon grand-père que je préside. Et on a fait sortir les bobines chez Serge Brombert, qui les a scannées. Ça a pris une semaine. Pendant une semaine, Serge m'a dit « Non, je ne te tiendrai pas au courant. Je ne veux pas que tu aies de faux espoirs. Je tenais plus en place. » Quand j'ai été visionner ce que Valécien avait trouvé, j'ai été stupéfait. Voilà, c'était magnifique.
Alors, il y a une vingtaine de boîtes, 20, 25. Dedans, il y a des boîtes des lettres de Montmoulin, donc qui sont mal identifiées. Voilà, enfin, c'est très régulier, très normal. Et puis, il y a effectivement certaines boîtes qui sont clairement marquées, avec des marques au crayon gras, certaines marques à l'encre de Chine, La Prière aux étoiles. Donc, il y a des images d'un côté, il y a des sons de l'autre. Les sons sont en très mauvais état. L'image, ça va. Et du coup, dans ce genre de cas, il n'y a pas 50 000 solutions. Hein. On prend les bobines une par une, on les passe entre les doigts sur l'enrouleuse, et puis dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu spécial, on s'arrête, on regarde une marque, une croix, un truc. Voilà. Ça, c'est la première étape. On le met sur le scanner, et là, on va regarder l'image en numérique. Elle va être numérisée devant nos yeux. Ça prend à peu près, je dirais, à peu près fois 5. Et on voit ces gens qui bougent des lèvres, mais... Que disent-ils ? On n'en sait rien. Parce que les bobines de son, elles, sont complètement au hasard. Il n'y a aucune information dessus. Il y a marqué bobine de son, bobine de son, bobine de son. Et là, j'appelle Nicolas et on se met dans le studio juste à côté et on va essayer de mettre en face le son et l'image. Et là, il y a un vrai miracle qui se produit. C'est-à-dire que vous avez des gens qui étaient des ombres, qui s'agitaient sur un écran, et tout d'un coup, ils vont se mettre à parler.
Tu aimes quelqu'un ? Parle-moi avec franchisme. Après ce que tu viens de me dire, je peux tout entendre. Tu veux garder ta liberté parce que tu aimes un autre homme ?
Non. J'ai beaucoup d'amour en moi. J'ai des provisions énormes, mais je n'ai jamais su à qui le donner. J'aimais un homme qui eut un visage. Je ne serais pas ici pour vous le dire.
Est-ce que tu aimes quelqu'un qui n'a pas de visage ? Mais Florence, tu n'es pas dans ton état normal. Tu es comme ma Mégève quand tu faisais ta prière aux étoiles.
Qui vous en a parlé ? Vous m'avez espionné.
Non, tu sais que j'en suis incapable. Mais un soir, je t'ai surpris sur le balcon de bois. À peine vêtu par un froid glacial, tu murmurais des paroles incompréhensibles. J'ai dit, Florence, qu'est-ce que tu fais là ? Tu m'as répondu, je fais ma prière aux étoiles. Et... Comment se peut-il qu'on aime quelqu'un qui ne vous aime pas ?
Et comment peut-on être aimé de quelqu'un que l'on n'aime pas ?
C'est une magnifique surprise, en même temps une magnifique déception, parce que le film n'est pas complet.
Est-ce que vous avez eu le sentiment, Nicolas Pagnol, de découvrir un trésor ? Et pourquoi ?
Ah oui, j'ai le sentiment de découvrir un trésor, oui. Ne serait-ce que parce que cette histoire tient une place particulière dans la vie de mon grand-père, dans sa biographie, de par sa relation avec Josette D, de par le moment où il tourne, donc sous l'occupation allemande. Et lorsque j'ai vu le film avec Serge, on a été stupéfait de voir que la réalisation de Pagnol était radicalement différente de celle à laquelle il nous avait habitués jusqu'à présent. Une réalisation léchée, des mouvements de caméra impeccables, des costumes somptueux, les coiffures parfaites, des décors bourgeois. On sent là que Marcel passe à un autre cinéma, tout comme il passe à une autre vie avec Josette. Ils sont bourgeoises. Terminé le Marcel des collines qui tourne en habit de pêcheur, la bande de copains dont il veut se professionnaliser, il veut qu'on le reconnaisse, il veut s'institutionnaliser en quelque sorte. Oui, c'est un trésor parce que c'est un autre Pagnol, c'est une autre facette de sa personnalité. Et notamment, c'est un film très autobiographique parce que les deux personnages masculins principaux, Pierre et Dominique, sont, lorsqu'on les rassemble, le portrait de Marcel Pagnol à ce moment précis, psychologique.
N'ayez pas de chagrin, Dominique, je n'en vaut sûrement pas la peine. Et d'ailleurs, ma colère subite, je la regrette déjà. C'est un accident qui m'étonne moi-même car je ne m'en croyais pas capable. Il n'y a qu'une explication. L'idée d'entrer dans votre famille m'a peut-être tentée. Et si j'en veux à tout le monde, et si je vous parle des étoiles, c'est peut-être que je suis prête à l'accepter.
Alors, tout ce que tu viens de me dire...
Oh, vous savez, les nerfs des femmes sont fragiles.
Mais tu as peut-être bu trop de champagne.
Oh oui, j'ai bu trop de champagne et j'ai mangé trop de caviar. Autrefois, dans ma pauvreté, je n'étais pas du tout malheureuse. Seulement, vous m'avez fâchée avec le métro, avec le balai, avec la marmite. Vous m'avez fâchée avec mon réveil qui me faisait sauter du lit. Vous m'avez fâchée avec l'eau froide et la serviette de toile rude. Vous m'avez fabriqué à votre usage. Non, Dominique, vous ne me perdrez pas. Parce que maintenant, je suis une pauvresse qui n'aura jamais plus le courage d'être pauvre.
Veux-tu que nous allions danser?
Non, je n'ai plus envie de danser ce soir. Ni jamais.
Serge Brandberg, vous êtes producteur et réalisateur de documentaires, mais vous êtes aussi restaurateur d'œuvres cinématographiques anciennes. Qu'est-ce que ça dit de la manière dont Marcel Pagnol considérait ces films d'une certaine manière? Moi, une champignonnière, c'est pas l'endroit idéal pour conserver des objets artistiques. On pense aux champignons, on pense à un endroit assez humide.
Détrompez-vous. Je pense que pour conserver des films, le mieux, c'est d'avoir un endroit où la température est constante. Et où, mieux que dans une champignonnière, peut-on avoir une température constante? Enfin, cette champignonnière était-elle un endroit où on cultivait des champignons? Je n'en sais rien. Mystère once again. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous avons retrouvé environ 13 bobines d'images et quelques bobines de son qui correspondent, bon an mal an, à entre 80 et 85 minutes de film. Le film n'était pas terminé, ça c'est certain. Avait-il été intégralement tourné? Moi je ne sais pas. Est-ce que dans cette champignonnière, il y avait tous les films? Et seulement certains films ont été ramassés. Très peu probable. Il est quasi certain qu'au moment de déménager les films de la champignonnière pour les amener au Centre National du Cinéma, aux archives du film, ils ont tout pris. Voilà. S'ils ont tout pris, ça veut dire que soit des bobines avaient été déposées dans la champignonnière et volées ou sorties avant que les archives n'interviennent. Pour moi, champignonnière, c'est déjà un mot tellement... Ouais, c'est un peu magique. Oh, des films dans une champignonnière. Extraordinaire. J'ai évidemment jamais foutu les pieds. Soit, Pagnol n'a pas mis tous les films dans la champignonnière, ou en tout cas, toutes les bobines de La Prière aux Étoiles. Mais avait-il même tiré la totalité du film? Avait-il même terminé le montage du film au moment où il a tiré ses copies positives pour les mettre, peut-être des années plus tard, dans la champignonnière? La réalité, c'est que nous n'en savons rien. J'imagine mal que Pagnol ne tire pas massivement la totalité du film avant de détruire le négatif. Donc moi, je suis quasi certain que Pagnol a tiré, ou en tout cas disposait d'un exemplaire positif de la totalité de ce qui avait été tourné et monté, et que c'est ça qu'il a mis de côté et qui s'est retrouvé nécessairement dans la champignonnière. Mais en suis-je même certain? N'y a-t-il pas d'autres hypothèses?
Une fois la guerre finie, Jacqueline partageant désormais sa vie avec Marcel, est-ce que l'on ne peut pas aussi légitimement penser que le cinéaste Pagnol est tout simplement passé à autre chose, qu'il a décidé de ne jamais reprendre le film, faisant fi de certaines bobines?
Alors, oui... Il a fait fi de ses bobines égarées, quelque part, vous avez raison.
Jean-Jacques Gélot-Blanc, biographe de Marcel Pagnol.
Il ne les a pas oubliées, parce que quand on qu'on analyse, qu'on étudie, qu'on dissèque, comme je le fais depuis bientôt 50 ans, et qu'on cherche dans les archives ce qu'il a pu faire de ce projet, je peux vous dire que c'est revenu à maintes reprises entre 40 autres projets, entre sa deuxième carrière qui était sa carrière littéraire, avec sa trilogie littéraire. Mais de temps en temps, la prière aux étoiles revenait comme une prière qui se faisait lui-même. René Pagnol, son frère, a beaucoup œuvré dès le début des années 60 aux archives qu'avait Pagnol dans la banlieue parisienne. Ils avaient d'immenses bâtiments à archives. Moi, il m'a dit en avoir retrouvé quelques bobines. On peut imaginer que, puisqu'on en a retrouvé un certain nombre, on retrouvera peut-être le reliquat, parce qu'il est certain que Pagnol a fait le grand numéro de la hache en détruisant les copies, mais qu'il avait gardé de par lui, certainement caché, une bonne partie de la copie originale, enfin du négatif. Et des négatifs doivent traîner encore sans doute quelque part.
Autre interprétation, est-ce que comme ce film est peut-être trop différent de ce vers quoi on l'attend, il s'est dit « Bon, ce film est différent, ça ne me correspond pas, on ne m'attend pas là, donc laissons tomber. »
Non, 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 non. Mais de toute façon, il n'avait pas terminé le film, c'était une trilogie, il n'en a tourné qu'un seul volet, donc ça n'avait ni queue ni tête. C'est pas du tout comme la trilogie Marius, Fanny, César, qui sont des... En tout cas, Marius est un unitaire à la base, il n'a pas été réfléchi comme le premier volet d'une trilogie. Et puis, Marcel a publié le texte, donc il n'en avait pas honte. Et Marcel n'a jamais eu peur de la différence, enfin de surprendre son public. Je pense notamment au Premier Amour, qui est un texte qui se passe au temps des hommes préhistoriques. Non, je pense qu'il est passé à autre chose. Il est surtout passé à une autre femme. Marcel a fonctionné par coup de cœur. Orane de Mazis, Josette D., Jacqueline Pagnol, voilà.
Bon, Jacqueline m'en a parlé parce qu'effectivement, ça faisait partie des grands... les échecs de sa vie, eh bien, je pense qu'il n'a pas eu d'échec, moi, parce que c'est pas un échec, le fait d'avoir été arrêté par l'occupation allemande, que ce film ait été stoppé. Ce film devient un film culte, qui va revenir sans doute au-delà, et je fais confiance à Nicolas là-dessus, pour qu'il remette, en circuit, encore faut-il trouver le reliquat. Et Marcel Pagnol, que moi je porte au nu, c'est quelqu'un qui, résumant en une phrase et en mentant quelque part lorsque l'abbé Norbert Calmels en 74 vient lui donner l'extrême onction et il lui dit on ne peut pas tout réussir. Et je veux dire, pour quelqu'un qui a tout réussi, justement, et qui n'a rien raté de sa vie, et encore bien moins la prière aux étoiles, puisque nous parlons de ça, mais mon cher Marcel, non, vous nous montez encore une dernière fois, une ultime fois, vous avez parfaitement tout réussi. Est-ce que ça serait le mot de la fin ?
Le film retrouvé avec Morgane Lefeuvre, Nicolas Pagnol, Jean-Jacques Gélo-Blanc, Serge Bromberg, Valécien Bonogalucci et Béatrice De Pastre. Archivina, Emmanuel Lucioni. Chargé de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. La prière aux étoiles, le film perdu de Marcel Pagnol, un documentaire de Pierre Chassagneux, réalisé par Yvon Croisier.